RFI. Accent d'Europe, Catherine Potet.
Bonjour. Au sommaire d'Accent d'Europe aujourd'hui, les conséquences de la crise sur les travailleurs immigrés. En Espagne, les Espagnols qui se retrouvent au chômage partent faire la récolte des olives en Andalousie et les travailleurs immigrés qui jusqu'à présent assuraient cette récolte se retrouvent à la rue. En Russie aussi, les travailleurs immigrés sont particulièrement touchés par la crise. Nous appellerons Alexandre Billette, notre correspondant à Moscou. Au sommaire également, le programme Atlantis, un programme d'échange entre universités européennes et américaines avec à la clé des diplômes transatlantiques. Les librairies ont-elles une chance de survivre face à la vente de livres sur Internet? La Deutsche Welle nous emmènera dans une petite librairie de Munich où l'on considère que le livre n'est pas seulement un objet commercial. Enfin, direction le Portugal, une caméra est désormais installée dans la chapelle de Fatima. L'image du sanctuaire est diffusée en direct 24 heures sur 24 sur Internet. En période de crise, ce sont souvent les plus vulnérables qui paient la facture la plus lourde. C'est le cas notamment des travailleurs immigrés qui, dans certains pays européens, ne trouvent plus d'emploi. Exemple, en Espagne, où l'on compte 700 000 chômeurs de plus à cause de la crise, notamment dans l'immobilier. Du coup, ces nouveaux chômeurs espagnols cherchent du travail ailleurs. Actuellement, on est en pleine récolte des olives et les immigrés maghrébins ou d'Afrique subsaharienne, qui jusqu'à présent assuraient l'essentiel de la main-d'œuvre pour cette récolte, ont dû se rendre à l'évidence. Cette année, ce sont des Espagnols qui travaillent dans les champs d'oliviers. En Andalousie, le reportage de notre correspondant François Musso.
J'ai fait tout dans ma vie. Regarde où j'en suis. À avoir faim, à dormir dehors. Je n'ai pas de couverture. Regarde mon sac de couchage, il est hyper fin. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est très dur cette année, vraiment très dur. Apparemment, il n'y a pas de travail. La crise, c'est seulement pour les immigrés et pas pour les Espagnols. Eux, regarde comment ils vivent, comment ils mangent. Et nous, vois comment on
vit.
Amadi a 50 ans, il est arrivé ici il y a un mois et il n'a pas travaillé une seule journée depuis tout ce temps. Ici, c'est la bourgade blanche de Baena, en pleine Andalousie, où la campagne est couverte d'oliveraies à perte de vue. Et on a toujours eu besoin de bras ici lorsque commence la récolte des olives entre fin novembre et la mi-janvier. Amadi est un habitué, cela fait 25 ans qu'il parcourt l'Espagne de récolte en récolte. Les patates à Lérida, l'ail à Albacete, l'olive à Baena ou Jaén, la fraise à Huelva. 30 à 45 euros par jour pour 6 heures de travail. Mais cette année, pour lui, il n'y a pas de travail du tout. Les pluies ne facilitent pas les choses, bien sûr, mais surtout, c'est la crise. Des milliers d'Espagnols du coin travaillant dans la construction sont aujourd'hui au chômage. Et cette année, ils se sont rabattus sur la cueillette des olives. Ricardo est contremaître à Baena, dans une propriété de 125 hectares d'oliveraies.
Les gens qui travaillent avec moi dans l'olive, ils sont espagnols, c'est normal, non? Ils sont d'ici. Il y a beaucoup de gens du coin qui sont au chômage, alors ça les intéresse de travailler quelques temps à la cueillette, une semaine ou deux. Ça leur permet de faire durer leur allocation chômage plus longtemps.
Il n'y a pas que les Espagnols qui sont embauchés de préférence dans cette région. En plus, il y a les Roumains, avec qui les contrats sont signés en amont à Bucarest. Pour les agriculteurs locaux, c'est tout bénéfice. Ce sont des citoyens de l'Union européenne et ils partent sitôt la récolte terminée. Conséquence, les autres immigrés restent sur le carreau, surtout les Africains. Pour eux, pas de travail, rien de rien cette année. On parle de 5000 personnes dans toute l'Andalousie à la recherche désespérée d'une journée de travail dans les champs.
C'est très difficile parce que la nuit, ils viennent avec le froid qu'il fait maintenant. Ils ne savent pas où aller parce que ce sont des gens qui tournent dans toute l'Espagne, là où il y a les campagnes de fruits. Et ici à Baena, c'est à Lérida, à Almeria, ils font le tour, quoi, le tour de l'Espagne. Je suis obligé de ramasser tous les cartons qu'il y a ici avant que vienne mon chef, parce que s'il vient, il voit ça, demain, ils ne vont pas dormir ici, c'est sûr, parce que ce n'est pas bon pour la clientèle. Les gens, ils ont peur. Et puis, comme on est dans un village qui ne sont pas encore habitués à avoir des noirs comme ça, donc ça fait peur.
Billy est un Sénégalais de 27 ans, un un ancien basketteur international. Il a eu plus de chance. Il a trouvé, lui, un travail stable dans une station essence de Baena, il y a un an, à l'entrée de cette bourgade de 20 000 habitants. C'est en face de cette station essence, justement, qu'environ 200 Africains tuent le temps dans l'espoir qu'un contremaître espagnol vienne les trouver. Devant le local de la Croix-Rouge, qui leur donne des sandwichs tous les jours, on peut les voir jouer aux échecs, faire leur lessive ou s'ennuyer, l'air triste. Contrairement à ce que beaucoup croient, la plupart ont leurs papiers en règle et travaillent en Espagne depuis plusieurs années. Mais la crise les a jetés au chômage dans l'agriculture, l'hôtellerie ou la construction. Beaucoup se retrouvent donc sans ressources, comme Mohamed Jedbour. Dans sa malchance, il fait partie de la minorité logée par la Croix-Rouge. Il a au moins un toit, les autres devant dormir à la Belle Étoile, dans le froid, sans couverture et sur des bouts de carton.
Il n'y a rien. Ici, en Espagne, il n'y a pas de travail. J'ai cherché toute l'Espagne. Il n'y a rien. Il y a beaucoup de gens et il n'y a pas de travail ici.
Mohamed Jedbour, 33 ans, ne sait pas où aller. Il a quitté Oran, en Algérie, il y a trop longtemps pour avoir des chances d'y trouver du travail. Et comme la plupart, il partira plus à l'ouest, vers Huelva, pour la récolte de la fraise. Là-bas, les agriculteurs ont déjà averti qu'il n'y avait pas de place pour les immigrés africains, seulement pour les Polonais et les Roumains. Mohamed Jedbour n'a pas de ressources et il ne lui reste plus beaucoup de possibilités.
Je reste une semaine, si je ne rencontre pas de travail, je pars. J'ai des amis en France et à Paris, à Montpellier, mieux qu'ici.
Reportage en Andalousie, signé François Musso. Nous allons à présent en Russie, où pour alimenter la croissance économique de ces dernières années, le pays a fait appel à de nombreux migrants qui sont venus travailler à Moscou, notamment dans le secteur de la construction. Mais avec la crise économique, c'est par centaines de milliers que ces travailleurs se retrouvent aujourd'hui au chômage. À Moscou, Alexandre Billette.
On dit souvent en Russie que Moscou se développe grâce au Tadjikistan. C'est une boutade, mais c'est aussi la réalité. Le boom de la capitale russe depuis quelques années a été réalisé en partie grâce aux centaines de milliers de travailleurs migrants venus du Caucase et surtout des anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale. Mais avec la crise économique qui frappe la Russie, les chantiers sont au ralenti et les travailleurs migrants sont les premiers touchés. Souvent embauchés au noir, ce sont les premiers à être licenciés. Un drame pour plusieurs familles restées au pays et qui comptaient sur cette unique source de revenus. La crise économique russe pourrait donc, par effet domino, toucher les pays pauvres d'Asie centrale. À titre d'exemple, 54% du PIB du Tadjikistan est constitué par les transferts d'argent des travailleurs migrants. Et avec la crise qui touche l'ensemble de la population russe, on voit apparaître, ou plutôt s'amplifier, un autre phénomène, c'est la montée du racisme. Depuis quelques mois, les organisations extrémistes ont repris de plus belle leur vieille rengaine et accusent les étrangers de voler le travail des Russes. Le mouvement contre l'immigration illégale, un groupe d'extrême droite, se proposait même de constituer des milices à Moscou pour débusquer les sans-papiers. Même au sommet de l'État, on veut réduire le nombre d'étrangers. Le Premier ministre Poutine a demandé au Parlement de voter une baisse radicale du quota d'étrangers admis à travailler en Russie. De 4 millions, ce nombre sera diminué de moitié pour l'année 2009.
Jeunes européens, jeunes européennes.
Mais qu'a bien pu faire l'Europe pour nous ?
Gaëlle Joly, bonjour.
Bonjour Catherine.
Vous nous présentez aujourd'hui Atlantis. C'est un programme d'échange entre les universités européennes et américaines. Et cette année, 700 étudiants devraient participer à ce programme.
Oui, c'est ça. Il faut savoir que le programme Atlantis existe depuis 1995. Ce programme permet aux étudiants européens d'aller étudier aux États-Unis, d'y faire reconnaître leur diplôme et inversement pour les étudiants américains en Europe. Résultat, en 14 ans, plus de 4000 jeunes ont pu partir étudier sur l'une des deux rives de l'Atlantique. Alors comme Erasmus, vous ne payez que les frais d'inscription de votre université d'origine. Un détail pas négligeable hein, quand on connaît les coûts d'inscription dans les facs américaines pour entrer à Harvard par exemple. Ça peut facilement monter à 30 000 dollars l'année, soit 20 000 euros par an. Vous voyez, c'est quand même un bon plan.
Depuis le 1er janvier dernier et jusqu'en 2013, nous entrons dans la troisième version du programme Atlantis avec certaines nouveautés. Gaëlle.
Oui, le programme Atlantis se concentre désormais sur la création de diplômes communs ou de double diplôme transatlantique en licence et en maîtrise à Bac plus 3 ou plus 4. 16 nouveaux projets de coopération vont être mis en place cette année dans 73 universités d'Europe et des États-Unis.
Et il existe déjà quelques diplômes dits transatlantiques. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors, pour vous donner un exemple, l'École de commerce européenne de Lyon, l'ECE, propose depuis un an à ses étudiants un diplôme dit transatlantique, assez original puisqu'il s'agit d'un triple diplôme européen et américain. Pendant leur troisième année d'études, les élèves suivent leur cursus de management et finance en anglais à Lyon. Ils enchaînent le second semestre dans une université suédoise. Et pour leur dernière année, ils s'envolent pour 9 mois aux États-Unis dans l'université de l'Illinois. Du coup, une fois le programme terminé, ces étudiants reçoivent 3 diplômes. Un diplôme français, un diplôme suédois et le bachelor américain. Sachez que pour les aider, ces étudiants ont droit à une bourse de 1200 euros par mois, une somme plutôt acceptable.
Une autre nouveauté également, le programme s'étend à différentes disciplines, à de nouvelles disciplines.
C'est ça, vous avez par exemple la gestion durable des ressources en eau, le développement rural et l'économie agricole, le tourisme durable, la protection de la santé, le travail social d'intégration, le journalisme environnemental, la mode ou encore l'hôtellerie. Bref, la liste est longue, vous voyez, c'est très varié, il y en a pour tous les goûts. Un conseil, renseignez-vous auprès de votre université pour voir quel échange elle propose cette année. Il va y avoir du changement.
D'autant que la Commission européenne favorise les coopérations universitaires avec le Canada et certains pays de la zone Asie-Pacifique.
Oui, au Canada, 360 places vous sont offertes sur 3 ans pour découvrir les salles de cours de l'université de Sherbrooke, Montréal ou Laval. Environ 1000 étudiants pourront, eux, s'envoler pour le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et, nouveauté cette année, la Corée du Sud. C'est la première fois que l'Union européenne propose un échange avec ce pays. Alors en Europe, près de 800 établissements vous permettent de partir dans l'une de ces destinations. Renseignez-vous bien auprès de votre université. Un dernier mot, sachez que tous ces programmes dont on vient de parler s'appliquent aussi au personnel enseignant. Et puis, ils ne concernent pas uniquement les universités et les écoles, mais aussi les entreprises, administrations, ONG et organismes professionnels pour des échanges de stagiaires et d'administrateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Commission européenne. Vous tapez www.europa.eu.
Merci Gaëlle, à bientôt.
À bientôt Catherine.
À mon humble avis, nous voici tous confrontés à ce que moi j'appellerais un cas d'espèce.
La période des fêtes et des cadeaux a montré une nouvelle fois cette année que les consommateurs européens achètent de plus en plus sur Internet. On peut quasiment tout acheter en ligne, y compris des livres. Une terrible concurrence pour les librairies qui tentent de survivre et qui souvent y parviennent en faisant valoir les services que ne peut pas rendre la vente en ligne. Isabelle Hartmann de la Deutsche Welle s'est rendue à Munich dans l'une de ces librairies où le livre n'est pas qu'un objet commercial.
Au rez-de-chaussée de la mairie de Munich, sous les arcades gothiques, il y a la librairie Lentna. Une histoire vieille de plus de 3 siècles, mais à peine 100 ou 120 mètres carrés sur 2 étages, et des livres dans tous les coins, sur les marches de l'escalier, sur le comptoir. Et là, justement, il y a le vendeur Franz Klug en pleine action.
Nazım Hikmet, par exemple, c'est l'un des meilleurs auteurs modernes turcs, un super poète. Entre Brecht et Neruda, son thème de prédilection, c'est l'amour et le lieu de ses racines. Ah, et nous avons là un autre bijou, Monsieur Weinberger, trop peu connu, Elliot Weinberger. Il écrit des essais super, par exemple, sur les rhinocéros. Quand est-ce qu'un rhinocéros est apparu pour la première fois en Europe? C'est passionnant, ça se lit d'un trait, c'est vraiment très bien.
Ici, on trouve aussi des reproductions de livres anciens, des calendriers d'art et beaucoup d'auteurs inconnus. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne correspondent pas à la littérature standard présentée dans les grandes librairies ou sur la page d'accueil du site internet Amazon. Pour la petite librairie, ce choix de la qualité est une question de survie face à ses concurrents. L'an dernier, Amazon a vendu pour 850 millions d'euros de livres. Cela représente 9% du marché. Les grandes chaînes comme Hugendubel ou Thalia en couvrent quant à elles 25%.
Notre réponse est une offre de très haute qualité. C'est le cas depuis longtemps. Déjà, nous étions la seule librairie de Munich spécialisée dans les facsimilés. Mais le public vieillit, alors on spécialise désormais dans les beaux ouvrages d'art et la littérature de qualité. Bien entendu, malgré cette spécialisation, il faut quand même que nous ayons un peu de tout parce que nous sommes dans une zone piétonne et que certains clients cherchent aussi un guide de Munich. Et parmi les best-sellers, on fait un choix. Même si un livre est présenté dans tous les journaux, on ne le prendra pas si on n'a pas envie de le vendre. Et le deuxième point de notre stratégie, c'est de gagner et de garder un client parce qu'on saura lui offrir le meilleur des conseils.
Avec plus de 95 000 nouvelles parutions par an, la sélection drastique faite par les vendeurs vaut de l'or. Christine vient deux à trois fois par semaine dans cette librairie.
Ils savent ce que j'aime et je peux leur dire, je voudrais quelque chose à lire dans le métro. Je leur dis que ce bouquin-là, je l'ai déjà lu, que cet autre-là ne m'a pas plu. Et ils me disent, tenez, essayez ça. C'est un échange constructif.
Quelques kilomètres plus loin, changement d'ambiance. Dans ce quartier résidentiel, la librairie Lentna a ouvert une filiale il y a 2 ans et demi. Ici, les livres sont plus grand public qu'en ville, mais on peut s'asseoir. La librairie est en effet un lieu de rencontre. Il y a un petit café, du jazz en musique de fond, un vieux canapé en cuir où s'enfoncer pour feuilleter un livre ou une pièce de jeu pour les enfants. Et pour ceux qui veulent, il y a même des bouteilles de vin sélectionnées par le propriétaire de la librairie, Thomas Felba. Une oasis de calme, d'où il considère la concurrence avec tranquillité.
Bien sûr qu'Amazon avale une énorme part du marché, mais c'est une nouvelle clientèle qui ne viendrait de toute façon pas dans les librairies, mais qui va chercher quelque chose à 10h du soir ou bien à minuit pour le commander. Les petites librairies ont encore une grande chance sur le marché. C'est justement le rapport au client, la satisfaction qu'il va avoir à dire « Je vais chez mon libraire ».
L'équilibre toutefois est fragile et tient au prix du livre. Aujourd'hui, il est encore le même pour toutes les librairies. Les éditeurs ne font donc pas de rabais si une grosse librairie achète d'un coup 100 000 exemplaires de Harry Potter, par exemple. Dans cette situation, c'est encore le service qui fait la différence et les clients s'en rendent compte.
Ils viennent avec tout ce qu'ils ont cherché sur Amazon. Souvent, c'est d'ailleurs toute une liste. Ils veulent le commander chez nous. Ils auront aussi les livres dès le lendemain et peuvent les récupérer de 10h du matin à 8h du soir. Tandis que le paquet d'Amazon, il sera chez le voisin ou bien déjà retourné à la poste parce qu'il n'était pas là pour le réceptionner.
Un reportage à Munich d'Isabelle Hartmann de la Deutsche Welle. Et nous prenons la direction du Portugal où la chapelle des apparitions de Fatima entre dans l'ère du multimédia. Une caméra est en effet désormais installée dans cette chapelle. L'image du sanctuaire est diffusée en direct 24 heures sur 24 sur Internet. Les croyants peuvent donc réciter leur rosaire en regardant l'écran de leur ordinateur. À Lisbonne, Marilyn Darcy.
Il faut bien vivre avec son temps et le sanctuaire de Fatima, qui a beaucoup amélioré sa communication, a cédé à la pression des fidèles qui voulaient pouvoir suivre ce rosaire, un rite que tout bon pèlerin doit accomplir sans faillir, même en étant loin. Il a donc accepté de placer une caméra dans la chapelle et de diffuser les images sur son site. Sur www.fatima.pt, il suffit de cliquer sur l'onglet « Transmission » pour se retrouver devant la chapelle où se déroule en direct la prière des élèves de la paroisse de Fatima. Le petit groupe prend son rôle au sérieux, annonce les mystères chrétiens et entonne les réponses avec détermination. Tout ceci entrecoupé d'interventions d'une chorale qu'on suppose composée de jeunes chanteurs, car en fait, ils sont hors champ, on ne les voit pas, la caméra est fixe face à l'autel et ne balaye jamais les allées de la chapelle. Les pèlerins s'étaient inquiétés d'être reconnus par l'œil de cette caméra. Elle est donc très discrète. Mais pour les modernistes, c'est un faux débat. Ils rappellent que tous les ans, ce sont près de 5 millions de personnes qui se rendent au sanctuaire, photographiées et filmées de tous côtés, sans oublier les retransmissions télévisées des grands événements. Le site www.fatima.pt a été visité, lui, par 700 000 personnes l'an dernier, soit 5 millions de clics. Un très bon score. Pour l'instant, on ignore si le futur sera interactif. Le sanctuaire ne manque pas de temps fort entre les promesses accomplies à genoux et les processions au flambeau. En attendant, la chorale invisible reviendra le 13 du mois prochain, comme le veut la tradition.
C'était Accent d'Europe, une émission coproduite par Radio France Internationale et la Deutsche Welle avec le soutien du programme Euranet. Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot et mise en onde par Thomas Ferrière. Demain, vous retrouverez Laurent Berthaud pour une émission consacrée notamment aux pesticides dans l'agriculture en Allemagne et en France.